Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères, nous sommes arrivés au-delà de la moitié du carême et le Seigneur, par la liturgie de l'Église, vous dit aujourd'hui son contentement. Sans doute n'êtes-vous vous-même que très peu content de vous-même. Et je serais bien étonné, vous voyant si pieux au pied des autels, d'imaginer que vous êtes satisfait de votre carême. Il faut que vous ne le soyez pas, mais il faut que Dieu, lui, le soit. Il vous dit aujourd'hui, en éclairant un peu les ornements sacerdotaux et en accordant quelques pompes supplémentaires à ce dimanche de carême, que vous avez bien commencé. Que maintenant que vous êtes au milieu du chemin, il vous reste sans doute le plus dur à faire, mais vous avez déjà reçu en héritage la grâce de pouvoir continuer. Déjà, ce que vous avez fait vous a rendu capable de continuer le carême, c'est-à-dire dans cette deuxième partie, de vous unir plus étroitement à la passion de Jésus, de vous unir plus étroitement à la conquête des âmes, de participer au salut du monde. Voilà bien l'objet de notre prière. Peut-être que jusqu'ici, nous avons prié pour nous, afin que nous réformant, nous soyons capables plus tard d'avoir une prière capable de participer au salut du monde. Oui, sans doute nous avons prié pour nous, demandant à Dieu pardon de nos fautes, de nos faiblesses, de nos incapacités, réclamant de lui davantage de force, davantage de lumière, davantage de grâce, nous engageant ce faisant à continuer sur le chemin où nous avons commencé d'avancer, voulant encore et en dépit de tout le suivre jusque sur le haut escarpé de la montagne. Désormais, puisqu'il nous a fait grâce, nous arrivons au cœur réel de notre prière, à la raison même de notre existence. Il nous a choisis, disait saint Hippolyte, pour servir en sa présence, c'est-à-dire pour œuvrer avec lui, par lui et en lui, au salut du monde. Alors, désormais, nous ne nous regardons plus nous-mêmes. Et si, par cas, nous redoublons nos efforts, nous savons que tout cela sert efficacement à la conversion des pécheurs, à la liberté et à l'exaltation de notre Sainte Mère l'Église, à la conversion des âmes et au salut du monde. Il reste en nous en persuader. Il reste à l'Esprit Saint à persuader chacun de nous que si nous faisons ce que nous pouvons, ce dont nous sommes capables, participons à l'œuvre de rédemption et à l'œuvre de rachat. Nous entrons dans la prière de Jésus. Vaste chose que la prière de Jésus, mais chacune de nos prières n'existe qu'en fonction de la prière de Jésus. rappelez-vous, le cardinal de Bérulle disait qu'il n'y a qu'un seul adorateur, c'est le Christ. Et de fait, de quoi s'agit-il, sinon de recevoir l'Esprit envoyé par le Père qui rend présent Jésus et nous unit à cette présence. Ce même Esprit qui vient en nous pour qu'avec Jésus, nous puissions dire Père, Père. Ou, pour répondre à la demande des apôtres et selon ce que Jésus nous a appris, notre Père qui es aux cieux. J'aimerais, pour une fois, que nous ne partagions pas en tronçons cette première affirmation du pater. Je ne dis pas que c'est mauvais de transformer tout cela en tronçons, de passer une heure à définir ce que veut dire notre, de passer deux heures à définir ce que veut dire père, et ainsi de suite. Mais, imaginons, pour une fois, que nous ne sommes pas des théologiens et que nous sommes seulement des gens qui essayent d'être au rang, des gens qui essayent de prier de la prière même de Jésus, non pas d'une prière que Jésus a donnée à ses apôtres comme Jean-Baptiste l'avait fait avant lui, afin de s'en débarrasser, vous voulez une formule, en voilà une et puis au revoir. C'est sa prière. Quand l'on disait autrefois c'est la prière dominicale, on ne voulait pas dire que c'était la prière du dimanche, on voulait dire que c'était la prière du Seigneur. C'est sa propre prière en laquelle nous avons à entrer. Et arrêtons-nous un instant sur la première proposition. Notre Père qui es aux cieux. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Cela peut signifier la splendeur et la particularité divine. Cela peut souligner combien le Père est au-dessus de nous. Eh bien, je crains que nous fassions fausse route. Bien sûr que les mots ronflent, que les expressions sont brillantes, mais je crois qu'elles nous disent exactement le contraire. Si le Père est au ciel, c'est parce qu'il est là. Transportez-vous, je vous prie, au terme de la vie de Jésus sur la terre, dans ce mystère admirable de l'ascension. Jésus s'en va de devant les yeux de ses disciples. Mais désormais, s'ils ne le voient plus, c'est qu'il est avec eux de manière tout intime. Alors les voilà entrés dans le cénacle avec Marie et tout donné à l'apprentissage nouveau de cette présence de Jésus, tant inspirateur. De Jésus qui, par la grâce de l'Esprit, leur devient si présent que désormais ils sont le Christ sur la terre, le Christ qui se répand et se communique, pour paraphraser le grand Bossuet. Voyez l'exemple de Pierre que j'ai aimé déjà vous présenter. Jusqu'au dernier moment, il est à côté de la réalité. Il dit quelques bêtises ou pointe même un peu de jalousie. Et il ne comprend sans doute pas très bien ce que Jésus lui dit. Mais après ce temps de retraite, après cette initiation par l'imitation de la prière de Marie, alors qu'il se lève au milieu de l'assemblée pour procéder au remplacement de Judas à l'élection de Matthias, le voilà qui parle comme les Écritures, qui parle selon le Christ, que le Christ parle par sa bouche. Et ainsi est l'Église. Notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui est tout proche de nous. C'est notre Père qui vient jusqu'au plus intime de notre cœur, jusqu'à l'endroit le plus secret de notre être. Il est tout proche. Il se fait tout proche par l'opération du Saint-Esprit. Et c'est bien pour cela que le Fils est là et qu'avec Jésus, nous pouvons dire notre Père. Notre Père, c'est le Père commun de tous les fidèles, eux-mêmes de tous les hommes, tant qu'on y est. C'est une sorte de démocratie de la divinité qui rassemblerait chacun dans un peuple indistinct où l'on pourrait brailler ce que l'on voudrait puisque l'unité se tient de ce qu'il est le Père. Ce n'est pas à vous qu'il faut raconter des choses pareilles, j'imagine. Ou alors c'est à désespérer de tout. C'est le Père commun de Jésus et de nous. Or, si c'est le Père commun de Jésus et de nous, c'est parce que nous sommes confondus en Jésus. Car jusqu'à la preuve du contraire, le Père n'a qu'un Fils, le Fils unique de Dieu. Dites-vous dans votre profession de foi avec raison. Et nous ne sommes fils que parce que nous sommes dans le Fils. C'est le Père commun de Jésus et de moi, parce que par la grâce du baptême, je suis devenu membre du corps dont le Christ est la tête. Désormais alors, entre le Christ et moi, il n'y a plus rien. L'Esprit unit. Pas trop à cause de moi, mais un peu tout de même, et beaucoup à cause du Christ. Et le corps mystique se trouve désormais tellement uni avec le Verbe que la prière du Christ, que la prière du Seigneur est sa prière en tant que Fils unique et sa prière en tant que chef du corps mystique. Oui, nous pouvons souhaiter la sanctification du nom de Dieu. Nous pouvons souhaiter participer à la sanctification du nom de Dieu. Et comment, je vous prie ? Qui de nous va ajouter quoi que ce soit à la sanctification du nom de Dieu ? Quelle prière sortie de notre humanité pourrait-elle être assez splendide pour ajouter quelque chose à la divinité ? Seul le Fils sanctifie le Père, comme le Père sanctifie l'Esprit et le Fils. Ils se sanctifient mutuellement tous les trois, ensemble. Les uns par l'autre et l'autre par les uns. Oui, je peux souhaiter participer à cette sanctification puisque je laisse de la part du Père l'Esprit m'unir au Christ. Mais seul le Fils sanctifie le Père avec l'Esprit. Seul le Fils fait advenir le règne de Dieu parce que seul le Fils s'offre en sacrifice sur la croix. Mais je puis participer à cet avènement du règne de Dieu en me laissant unir une fois encore par l'Esprit au sacrifice du Fils, en offrant au Fils, au Père par le Fils et dans l'Esprit, mes efforts, mes pénitences, mes sacrifices, et tout ce qui est pour moi peine, douleur, souffrance, maladie, incompréhension, doute, et avec cela ce qui est aussi joie, ce qui est aussi bonheur, bref, si je me laisse offrir si je m'offre dans le sacrifice du Christ ce qui est le propre de notre identité. Le catholique ne se reconnaît que parce qu'il va à la messe. Après 50 ans, on peut de nouveau dire ça. On a l'air moins tarte que l'on était autrefois. Mais qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ce qui caractérise le catholique, c'est qu'il participe au sacrifice du Christ. Et c'est qu'il va à la messe, parce que la messe est toute sa vie. Alors oui, par ce moyen-là, la volonté du Père est faite sur la terre comme elle est dans les cieux. La volonté du Père, c'est que le monde soit sauvé. La volonté du Père, c'est que le pécheur soit converti. Et il n'y a aucune participation à la volonté du Père, aucune obéissance à la volonté du Père, en dehors de ce désir de convertir les âmes, en dehors de ce désir de faire advenir le salut. Voilà la volonté de Dieu. Et voilà comment je peux dire que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Mais pour cela, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de force, j'ai besoin de grâce, j'ai besoin que chaque jour, il me nourrisse de lui-même, il me nourrisse de sa parole, il me nourrisse de sa présence, il me nourrisse de sa lumière, il me nourrisse de sa grâce. Oui, j'en ai besoin. Et je le lui demande, de sorte que je puisse, avec le Christ, par le Christ, pour le Christ et dans le Christ, participer à la vie du corps mystique, participer à la fortification du corps mystique, participer à la mission du corps mystique sur la terre. J'ai besoin que sans cesse, il me pardonne mes offenses, non seulement les miennes, mais toutes celles qui subsistent dans l'Église, celles qui sont miennes et celles de mes frères. Oui, qu'il me remette mes dettes, qu'il me pardonne mes offenses, car lui seul est pardon. Moi, vais-je pardonner? C'est ce que je demande. De l'ordre de l'homme. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui de nous n'a pas frémi en disant ces choses-là quand il avait vraiment quelque chose à pardonner? Et qui de nous n'a pas eu cette expérience difficile, impossible, du pardon? Le pardon n'est pas de l'ordre de l'homme. Le pardon est de l'ordre de Dieu. Et il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit, comme Jésus, d'être pardon. Et c'est tout autre chose. Jésus, au plus fort de son humanité, veux-je dire, lorsque il s'est chargé de tous les péchés des hommes dans le sacrifice de la croix. Lorsque il arrive au bout du sacrifice, pardonne-t-il ou est-il pardon? Allez lire le texte et vous aurez la réponse. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous voulez faire mieux, vous ? Nous allons faire mieux ? Si déjà nous arrivons à ça, nous avons beaucoup gagné parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Jésus. Jésus est moins celui qui pardonne que celui qui est pardon. Et si nous arrivions seulement à dire « Seigneur, je ne sais pas pardonner, mais vous le savez. Seigneur, vous pardonnez à mon ennemi, à celui qui m'a fait du mal. Et aidez-moi à savoir progresser. Je vous donne pour cela tout ce que je puis de moi-même. Mais Seigneur, puisque vous êtes plus grand que mon cœur, ainsi que le souligne le saint apôtre Jean, Seigneur, pardonnez. Même si je ne suis pas sûr qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors là, ça n'est pas un sentiment qui sort de moi-même, c'est moi-même qui m'offre avec Jésus. Et en étant pardon, je vais apprendre à pardonner. Mais d'abord, je serai pardon. Je serai offrande. Mais qui m'a offensé ? C'est de moi dont il s'agit ? Ah non, je le disais tout à l'heure, c'est du corps mystique dont il s'agit. Ça n'est pas moi qui suis offensé, c'est le Christ. C'est cette offense-là qu'il faut savoir pardonner. Et comme il est mort pour elle, sur la croix, moi-même, je dois entrer dans son sacrifice avec le même désir. Qui reçoit le pardon ? Le bon larron, assurément, et le centurion. Celui qui a dirigé la manœuvre, le chef des bourreaux. Vraiment, dit-il, cet homme était le Fils de Dieu. Manquez-vous d'occasion, aujourd'hui, singulièrement depuis 8 jours, de vous livrer à cet exercice, en vrai, comme disent les enfants ? L'Église, aujourd'hui, à travers le souverain pontife, est offensé cruellement, indépendamment de la personne du pape Benoît XVI, ce qui serait déjà beaucoup. Mais ce n'est pas le pape Benoît XVI qui est en cause, c'est l'enseignement de Jésus. C'est ce qu'il faut faire et ce qu'il faut croire pour aller au ciel, ainsi que disait le premier concile du Vatican. C'est de l'ordre de la foi. Et c'est de l'ordre de l'être chrétien. Ça, c'est une véritable offense. Eh bien, c'est pour le pardon de cette offense-là. Ce refus de Dieu, ce refus de la vérité que nous nous offrons nous-mêmes. Nous ne cherchons pas à obtenir vengeance. Nous cherchons au contraire à ce que nos ennemis deviennent nos frères. C'est sans doute, le savez-vous, savant comme on vous sait, l'origine du mot chrétienté. Quand, au temps très ancien, où les morts étaient à 50 kilomètres de Rome, le vieux pape partait. Il ne savait pas s'il se ferait tuer, s'il se ferait prendre. Il partait. Mais ce qu'il voulait, c'était que ses ennemis deviennent ses frères, et il forgea le mot chrétienté. C'est Charlemagne et Viti King. Dieu sait s'ils se sont battus en 20 ans de campagne, jusqu'au moment où Viti King s'est converti. Alors, rendu. L'ennemi était devenu un frère, à tel point que les Allemagnes l'ont mis sur les autels, comme bienheureux seulement. On a le Saint-Louis qu'on peut. La réalité, elle est là, et c'est l'objet de notre prière. Et c'est le seul moyen d'échapper à la tentation et d'être délivré du mal, puisque il ne peut plus rien sur nous dans cet exercice. Il peut aboyer, dit saint Augustin, mais il ne peut plus mordre. Et comme vous le voyez, il aboie beaucoup. Voilà ce que c'est que la réalité de la prière. Avec ces deux fonctions, si j'ose dire, la prière de l'Église, celle qui nous rassemble singulièrement dans la messe, et la prière personnelle. Quel maître de prière avons-nous ? Jésus et seulement Jésus. Voyez-vous Jésus prier dans les saints évangiles ? À l'évidence. Quand ? Quand il est tout seul. Dans la nuit, souvent. Avant que le jour ne se lève, parfois. Seul. Dans le secret de son être ineffable, comme nous, nous devons apprendre à prier dans le secret de notre propre être. Seul. Et il s'en va si seul, dans la nuit et dans des endroits déserts, ou bien sur la montagne, dans les lieux où, à part Dieu, il n'y a pas d'autre réconfort. Et puis aussi, et souvent deux fois, nous le voyons dans le culte public, auquel il se soumet pour nous apprendre, nous, à en vivre quand le culte sera nouveau, après sa résurrection. La prière, un des éléments essentiels du carême, avec le jeûne et l'aumône. Mais c'est une même chose que ces trois choses. Chacune de ces choses est une décomposition de l'ensemble. Nous avons besoin de jeûner, de faire des sacrifices, de faire pénitence, d'acquérir par là la maîtrise de nous-mêmes afin d'être capables de prier. C'est-à-dire travailler à l'œuvre de salut. Mais pour témoigner humainement aux hommes que nous donnons libéralement ce que Dieu nous donne libéralement, sans rien en attendre en retour, il nous faut faire l'aumône. Il serait bien dommageable que le carême s'arrêtât à l'aumône, comme on le voit partout. Elle est un signe, et un signe que Jésus nous indique, et dont nous ne pouvons pas nous dispenser, puisque la parole divine nous en fait une obligation. Ce triptyque est une seule réalité, et c'est la réalité de la Jérusalem céleste, déjà là et pas tout à fait encore. Ce matin, saint Paul, en parlant aux Galates, montrait dans une allégorie, la fille de l'esclave et la fille de la promesse, disant que nous étions les enfants de la promesse et que les autres étaient les enfants de l'esclave. À quoi se reconnaissent les enfants de la promesse ? C'est qu'ils sont la promesse. aussi simple que ça. Qu'ils reçoivent leur lumière, leur conformité, leur réalité d'en haut, de l'éternité de Dieu. Contrairement aux enfants de l'esclave qui ne reçoivent leur légitimité que de la terre. Les voyez-vous assez, chrétiens ? Ces deux choses s'opposaient dans l'histoire des hommes en général et dans la dernière semaine que nous venons de vivre en particulier. D'un côté, les enfants de l'esclave, tout occupés de la terre, veulent une morale, des principes qui soient de la terre. Le fils de la promesse, lui, veut des principes qui soient de Dieu. Peuvent-ils s'entendre ? Certainement non. Peuvent-ils se conjuguer ? Sûrement pas. Il faut que le fils de l'esclave puisse devenir le fils de la promesse. Et c'est à cela que nous servons, en travaillant hardiment au salut du monde, par l'offrande de nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.